Bonjour à tous. La justice allemande a rendu son verdict. Un ancien gardien du camp nazi de Stutthof, situé en Pologne, aujourd'hui a été condamné ce matin à 2 ans de prison avec sursis. Correspondance dans ce journal signé Romain Chevalier. La Chine à l'assaut de la planète Mars. Elle a expédié ce matin une sonde qui se posera sur la planète rouge dans 7 mois. Pékin se pose en rival des grandes puissances spatiales. Le Liban s'enfonce dans une crise sans précédent dans l'attente d'un accord avec le FMI qui tarde à se concrétiser. Jean-Yves Le Drian passe 2 jours à Beyrouth, capitale sinistrée. Le Parlement européen réuni à Bruxelles pour discuter du plan de relance et du budget global de l'Union. Un débat qui nuance le satisfecit général des 27 dirigeants signataires de l'accord obtenu avant-hier. Correspondance d'Angélique Boin à Bruxelles. Et puis le Conseil de Paris qui prend le virage de l'urgence climatique lors de sa première grande réunion post-électorale via le plan local d'urbanisme. Véronique Robérotte suit ce conseil pour nous. C'est peut-être le dernier procès d'un nazi qui vient de connaître son épilogue. Le tribunal de Hambourg a condamné ce matin à 2 ans de prison avec sursis un Allemand âgé de 93 ans, ancien gardien SS du camp de concentration de Stutthof, près de Gdansk dans l'actuelle Pologne. Il s'agit d'une condamnation tout à fait inédite en Allemagne. Romain Chevalier.
Oui, puisque dans le passé, seules les personnes qui ont occupé des postes élevés dans la hiérarchie nazie ou directement impliquées dans des homicides ont été condamnées. Cette décision montre donc la sévérité, certes tardive, mais accrue de la justice allemande, elle qui est fréquemment critiquée pour son traitement léger des crimes du Troisième Reich. Pour l'accusation qui avait réclamé une peine de 3 ans, cette condamnation de 2 ans avec sursis est un soulagement. Depuis le début du procès, elle demandait à ce que la culpabilité de Bruno D. soit reconnue. Selon eux, le nonagénaire, apparu tout au long des audiences en fauteuil roulant, a soutenu la machine d'extermination nazie. L'homme, âgé de 17 ans au moment des faits, avait pour mission d'empêcher toute révolte ou fuite depuis un mirador. Lors de sa dernière prise de parole, Bruno D. s'est notamment excusé auprès des victimes de l'Holocauste. Il a expliqué avoir pris conscience tout au long de ce procès de l'ampleur de la cruauté des actes commis dans le camp. Ce verdict pourrait bien être le dernier du genre en raison du grand âge des protagonistes, 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
La correspondance signée Romain Chevalier. La Chine envoie un nouveau message au monde pour affirmer son statut de grande puissance. La fusée Longue Marche 5 a décollé avec succès ce matin, avec à son bord la sonde qui doit atteindre la planète Mars dans 7 mois. La rivalité de plus en plus criante avec les États-Unis déborde donc du cadre terrien pour investir le cosmos. Cette mission vers Mars intervient en effet au lendemain de la décision américaine de fermer le consulat chinois à Houston, considéré par Washington comme un épicentre de l'espionnage de Pékin aux États-Unis. La Chine envisage bien sûr aujourd'hui des représailles du même ordre. La première journée de la visite de Jean-Yves Le Drian au Liban, pays sinistré où près de la moitié de la population vit dans la pauvreté. 35% de la population active est au chômage aujourd'hui. Beyrouth espère une aide de 10 milliards de dollars du FMI, le Fonds monétaire international, mais les négociations sont au point mort. Le ministre français des Affaires étrangères a eu l'occasion d'en parler ce matin avec le président libanais Michel Aoun. En quelques mois seulement, la monnaie locale a perdu 6 fois sa valeur, les prix explosent, le pouvoir d'achat est en chute libre. Pour les Libanais, s'acheter de quoi manger et même devenir un défi quotidien. Le reportage à Beyrouth signé Chloé Doma.
Dans une épicerie du centre-ville de Beyrouth, les clients errent, le caddie vide. Sarah, une infirmière de 37 ans, regarde les prix mais n'ose rien toucher.
Tout est devenu trop cher. Il y a beaucoup de choses que je ne peux plus acheter, comme la viande, l'huile, le lait, même la lessive.
Avec la dévaluation de la livre, les salaires ne valent plus rien. La misère pousse déjà certains à des gestes désespérés. Suicides, braquages et cambriolages font la une des médias locaux ces dernières semaines. Pour Randa, une mère de famille, cette escalade de violence est inévitable.
Voir son enfant avoir faim, c'est la pire chose qu'on puisse imaginer. Si ça m'arrive, je suis capable de tuer. Je ne m'énerve pas, je tue.
Pour relancer son économie, le Liban espère recevoir de l'aide internationale. Tous les regards se tournent désormais vers la France.
Et demain, Jean-Yves Le Drian s'intéressera plus particulièrement au sort des écoles francophones du Liban, confrontées elles aussi à cette crise économique sans précédent depuis la guerre civile. Beaucoup risquent de fermer leurs portes faute de moyens. Deux jours après la signature des 27 pays de l'Union au bas du plan de relance de 750 milliards d'euros, le Parlement européen est réuni aujourd'hui et demain à Bruxelles. Un débat avant le vote d'une résolution en précisant que ce n'est qu'à l'automne prochain qu'il se prononcera formellement sur le budget global de l'Union européenne à long terme. C'est donc aujourd'hui surtout l'occasion pour les différents groupes du Parlement européen de donner leur point de vue. Nous retrouvons Angélique Boin à Bruxelles.
La solidarité est enfin là, s'est réjoui en préambule le patron de la droite européenne, Manfred Weber. Mais nous avions fait des promesses à nos électeurs, dit-il, promis des gardes-frontières ou une défense forte, et le compte n'y est pas. Même tonalité chez les centristes. Dacian Ciolos, leur président de groupe, estime lui aussi que les coupes dans certains programmes jugés prioritaires ne sont pas acceptables.
Le Conseil préfère prioriser les fonds européens pour financer davantage de programmes nationaux au détriment des programmes communautaires, nos politiques d'avenir. Le digital, la recherche, la jeunesse et l'Erasmus, le programme de la santé en situation de crise qui est essentiel, c'est une des leçons à apprendre de cette crise, ne peuvent pas être sacrifiés sur l'autel de taux de retour pour les États membres.
Ce maigre budget est une pilule dure à avaler, a reconnu la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Mais en additionnant à notre futur budget les 750 milliards du plan de relance, nous disposons d'une force de frappe sans précédent, a-t-elle rappelé. Offensif, le président du Conseil, Charles Michel, a de son côté défendu deux mesures réclamées depuis longtemps par la majorité des eurodéputés. La conditionnalité des aides aurait respect de l'état de droit et le recours à de nouvelles ressources propres pour rembourser le futur emprunt. Mais vous n'êtes pas allé assez loin, lui a répondu le chef du groupe des Verts, le Belge Philippe Lamberts.
Sur le respect de l'état de droit par les bénéficiaires, le mécanisme adopté demeure flou et rien ne garantit qu'il soit opérant. Et la question de le remboursement, et c'est un autre angle mort du sommet, demeure très largement irrésolue. À nos yeux, il faudra enfin que les États membres concèdent à l'Union le droit de lever des impôts.
Les eurodéputés doivent voter cet après-midi une résolution qui détaillera ces points sur lesquels ils entendent bien peser lors de la négociation budgétaire.
Angélique Boin à Bruxelles, en rappelant que le moment le plus important pour le Parlement européen, ce sera donc à l'automne prochain, ce sera à ce moment-là le vote sur le budget global de l'Union. Emmanuel Macron hausse le ton vis-à-vis des pays tentés de violer l'espace maritime en Méditerranée. Il vise directement, en fait, la Turquie, qui a tendance à empiéter, si j'ose dire, sur les eaux territoriales de ses voisins grecs et chypriotes sous prétexte d'exploration pétrolière. Le président français, qui reçoit aujourd'hui le président chypriote, souhaite que des sanctions soient désormais infligées aux pays qui violent le droit maritime international, comme la Turquie. Les pays européens confrontés à un retour du refoulé colonial. La lame de fond déclenchée par le mouvement Black Lives Matter a atteint les côtes anglaises. Des historiens du Royaume-Uni demandent le retrait temporaire de la partie histoire du test pour obtenir la nationalité britannique. Dans une lettre publiée dans le journal officiel History, plus de 180 universitaires jugent que le guide qui permet de préparer le test ne dévoile qu'une toute petite partie du passé colonial britannique. À Londres, Elodie Goulesque.
Ce n'est pas pour ce qu'il dit, mais bien pour ce qu'il omet, que le guide pour les futurs citoyens britanniques, la vie au Royaume-Uni, est critiqué par les plus fins connaisseurs de l'histoire du pays. En cause le passé colonial de la Grande-Bretagne, le guide ne mentionne par exemple pas le nombre de 3 millions d'esclaves transportés sur des bateaux britanniques. Il insinue que la décolonisation a eu lieu par le bon vouloir de l'Empire de l'époque, sans évoquer les luttes et rébellions des esclaves, notamment en Inde et au Kenya, qui ont permis à ces pays de devenir indépendants. Enfin, sur les 200 personnalités que doivent connaître les candidats à la citoyenneté britannique, une seule a des origines coloniales. Les universitaires veulent donc alarmer. Aujourd'hui, le guide est à la fois incomplet pour ceux qui l'utilisent comme introduction à l'histoire britannique et offensant pour les candidats venant d'anciennes colonies. La lettre ouverte demande donc un retrait temporaire de la partie histoire du test tant que le guide n'est pas revu. Une initiative qui s'inscrit dans la lignée du mouvement Black Lives Matter. Ce dernier a provoqué une vague de remise en question sur le passé du Royaume-Uni avec des statues déboulonnées ou encore un hymne de rugby remis en question. De son côté, le ministère de l'Intérieur estime que ce guide n'est qu'un point de départ pour explorer le passé et se dit prêt à considérer tout commentaire qu'il recevra.
Elodie Goulesque à Londres, en précisant que le mouvement Black Lives Matter, vous le savez, connaît également des manifestations du même ordre en France, notamment dans les anciennes villes esclavagistes, qu'il s'agisse par exemple de Nantes ou encore de Bordeaux. Le premier vrai conseil de Paris depuis les dernières municipales est réuni aujourd'hui et demain avec au programme le budget supplémentaire pour 2020. Des mesures comme la gratuité des transports en commun à Paris, donc dès la rentrée de septembre pour tous les jeunes de moins de 18 ans scolarisés dans la capitale. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Vous suivez ce conseil pour nous. C'est surtout l'amorce d'un virage à Paris dans la conception de l'urbanisme sous le signe, bien sûr, de l'urgence climatique.
Oui, c'est vraiment l'idée, moins de bétonisation et plus de végétalisation et aussi plus de mobilité douce à Paris. Il faut offrir bien plus d'alternatives à la voiture. Et là, il y a encore beaucoup de travail. La crise du Covid a mis les Parisiens sur des vélos. Et bien, les 50 km de pistes cyclables, les coronapistes créées pour faciliter leur déplacement à l'air libre, vont être pérennisées. C'est ce que souhaite Anne Hidalgo. C'est le nouvel adjoint au transport et adversaire aussi d'Anne Hidalgo au premier tour des municipales, l'écologiste David Belliard, qui va superviser tout ça. Cela veillait aussi à mieux sécuriser ces pistes cyclables en les délimitant de façon plus claire et précise. Les véhicules diesel, ça c'est acté, seront bientôt bannis de Paris, on sait, en 2024. Et les moteurs thermiques, diesel ou essence, eh bien, c'est pour 2030. Cela a été voté à l'unanimité lors d'un conseil de Paris précédent. En matière de construction maintenant et d'aménagement, la maire de Paris souhaite insuffler une sobriété environnementale. Toutes les constructions neuves devront être bas carbone et à énergie positive. Ou à une énergie positive, ça veut dire des bâtiments qui produiront eh bien plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Autre volonté affichée, eh bien c'est lutter contre le bétonnage. Je vous l'ai dit, l'artificialisation aussi des sols. Alors ça ne veut pas dire ne plus rien construire à Paris, mais il s'agirait eh bien de compenser chaque mètre carré construit par un mètre carré de végétalisation. Le mécanisme reste bien sûr à peaufiner, mais chaque propriétaire eh bien pourrait être incité financièrement à créer pourquoi pas un jardin public, à laisser un petit bout de terrain en jachère. L'idée est aussi de conserver, bien sûr, à tout prix les îlots de fraîcheur de la capitale, des arbres, des jardins trop souvent en ce moment sacrifiés pour des projets immobiliers. Alors tout cela est plus facile à dire qu'à faire. Toutes les grandes villes remportées par les écologistes aux dernières municipales vont travailler en tout cas dans ce sens, sur un aménagement vert de leur ville à travers eh bien le prisme de l'urgence climatique. Anne Hidalgo prévoit, elle, de concerter largement à l'automne sur la révision donc de son plan local d'urbanisme. Pourquoi pas avec une conférence citoyenne parisienne, une centaine d'habitants de Paris et de banlieues formés durant 3 week-ends aux règles de l'urbanisme qui travailleraient donc sur le sujet et rendraient leur copie en novembre prochain. Eux seraient rémunérés pour ce travail.
Merci Véronique Robérotte pour ce compte-rendu. Une partie importante du Conseil de Paris qui se tient en ce moment. Jean Castex détaille, lui, en ce moment également à Besançon, le plan gouvernemental en faveur de l'emploi des jeunes. Après avoir visité des centres de formation, le Premier ministre confirme la mise en œuvre de mesures dès la rentrée prochaine, comme l'aide de 4000 euros en exonération de charges à l'embauche d'un jeune de moins de 25 ans. L'État fait un geste en direction des régions françaises qui gèrent les TER, les trains express régionaux. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'elles attendaient ce coup de pouce. Invité de France Info ce matin, Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué au transport, confirme que l'État va continuer à investir de façon avisée, selon ses termes, dans la SNCF, alors que l'entreprise de transport affiche une dette abyssale de plus de 40 milliards d'euros. Et notamment, il va investir sur les petites lignes qui sont justement la principale préoccupation des régions. Jean-Baptiste Djebbari.
Nous avons engagé en février dernier un plan de sauvetage des petites lignes. Nous avons déjà signé sur ce plan de 6 milliards, 1 milliard d'euros avec deux régions, la région Grand Est et la région Centre-Val de Loire. J'ai encore rencontré hier d'autres présidents de région et les choses avancent. Nous avons 9000 kilomètres de petites lignes qui sont en danger, soit qui sont existantes, qui sont soit arrêtées, pour certaines suspendues. Donc il y a vraiment ce contexte qu'on a trouvé qui était un contexte de gestion de la décroissance. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons échangé avec les régions, la fameuse mission du préfet Philizot qui a permis, je le dis rapidement, mais en gros, que l'État reprenne sa responsabilité sur les lignes les plus structurantes. 9000 km de petites lignes à sauver, avec la région qui pourra reprendre en délégation un certain nombre de petites lignes qui sont d'intérêt local, expérimenter le train léger, expérimenter du train à hydrogène, avoir des navettes autonomes, comme on a eu des dettes qui se sont accumulées, qu'on a eu des décisions qui ont privilégié les grands projets, les lignes à grande vitesse et pas le réseau secondaire, il fallait rééquilibrer les choses. Dans un premier temps, en 2017, nous avons suspendu les grands projets. Et nous avons réinvesti dans l'ensemble du réseau. Et là, maintenant, nous trouvons, sur le réseau secondaire, le bon contrat avec les régions de manière à sauver ces 9000 km de petites lignes ferroviaires qui sont importantes pour les Français.
Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué au transport, qui reçoit justement les vice-présidents des régions en charge de la gestion des TER, les trains express régionaux. Roselyne Bachelot se rendra à Avignon cet après-midi. La ministre de la Culture va à la rencontre du directeur du festival, Olivier Py. Festival annulé, vous le savez, comme tant d'autres, à cause du coronavirus. Cette visite intervient au lendemain de l'annonce de la création d'un fonds d'urgence pour le festival OFF, doté de 800 000 euros, destiné à soutenir les théâtres fragilisés, bien sûr, par l'annulation de l'édition 2020. Le temps, il sera encore à l'orage dans le sud de la France, surtout du côté des Pyrénées, du Massif central et des Alpes. Météo plus calme et plus sèche dans le nord. Température maximale cet après-midi, 19 à 22 sur les côtes de la Manche, 25 à 30 sur la moitié nord, 30 à 33 avec des pointes à 36 degrés dans le Var et le Gard. Fin de cette édition préparée avec Yves Garcia. Prochain journal, ce sera Brice Garcia, prochain journal 18h. Il sera présenté par Isabelle Souquet.